Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Bruno Solo. Il vient pour la pièce 10 ans après qu'il joue actuellement au Théâtre de Paris. Et puis dans les indispensables, on va parler de la plateforme Netflix. Cette fois, non pas de séries, mais de films, ceux du mythique studio Ghibli. Et puis musique avec la chanteuse Ayo qui sort aujourd'hui un nouvel album. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui débute par le Festival international de la bande dessinée. C'est en ce moment à Angoulême. Nous recevions hier la star des dessinatrices Pénélope Bagieu. Emmanuel Macron, le président de la République, était présent hier à Angoulême et il y a laissé une sacrée photo souvenir.
Une photo qui a suscité de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Le président de la République a posé avec le dessinateur de bande dessinée Jules. Jusqu'ici tout va bien. Sur cette photo, on voit le président brandir le t-shirt que l'auteur vient de lui offrir. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que sur ce t-shirt, il y a la mascotte du festival avec un pansement ensanglanté sur le visage, le slogan BD 2020 avec un L en plus, comprenez donc LBD 2020, LBD qui signifie lanceur de balles de défense, cette arme qui a blessé plusieurs manifestants ces derniers mois, utilisée notamment par les forces de l'ordre et qui a toujours suscité beaucoup de réactions. Jules a déclaré « Je sais que j'ai joué un petit tour à ma manière à Emmanuel Macron en lui offrant ce t-shirt. C'est une sorte de poil à gratter, un petit tour de cochon. En même temps, Emmanuel Macron est malin. Il sait que la contestation peut être digérée, intégrée à son discours, s'il sait le prendre avec suffisamment d'intelligence et d'humour. » Et justement, on écoute le président de la République.
Nous sommes un pays libre, démocratique, qui aime l'insolence. J'ai eu une discussion d'ailleurs ce midi avec Jules. Je suis en désaccord complet avec son approche. Néanmoins, de là où je suis, je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence. C'est ça une société libre. C'est aussi parce que nous sommes une société libre. Le président de la République, il peut accepter de poser avec un t-shirt où il y a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, que c'est une société dans laquelle on est en droit d'exiger de chacun le respect, la civilité, dans laquelle on peut dire que la violence est interdite.
Et là, au passage, il glisse un petit sous-entendu à ceux qui prétendaient que la France était une dictature.
Voilà. Alors, et puis, sachez qu'au-delà du festival sur la bande dessinée, Angoulême va créer un parc d'attractions autour de la BD pour 2023. Il célébrera donc les 50 ans du festival. Un investissement de 95 millions d'euros est prévu.
On passe à présent à la rupture de la semaine, peut-être même de l'année, on peut le dire, entre un célèbre rappeur et Instagram.
Ton dérangeur m'a laissé groguer. Deux jours plus tard, je te prends un dogue.
Hélène, vous avez des gestes équivoques. Que raconte cette chanson? J'arrive pas à comprendre les paroles, mais je plaisante pas du tout.
Ah bah, je dois vous raconter la chanson de Booba?
Non, mais en deux mots, des mots polis, il y a des enfants qui nous écoutent. Bah, qu'est-ce que ça raconte?
Il faut demander à Alice Pressa qu'elle la connaît pas.
Non, mais allez-y.
C'est une histoire, c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse avec ses hauts et ses bas.
D'accord.
Voilà, en gros, de manière très très résumée. Donc, vous l'avez compris, c'est une rupture entre Booba et Instagram. C'est fini, Philippe, compte supprimé pour, je cite, non-respect des standards de la communauté. La porte-parole d'Instagram a déclaré auprès de nos confrères du Huffington Post: nous avons supprimé le compte de Booba et lui avons interdit d'utiliser Instagram pour avoir enfreint ses règles. Booba, dans son dernier post, déclaré: apparemment, c'est mon dernier post. Instagram ferme mon compte à 16h. Merci pour votre soutien. La piraterie n'est jamais finie. Alors, il avait près de 4,6 millions d'abonnés. Son compte qui était devenu un véritable lieu de règlement de compte, justement, entre lui et le rappeur Kaaris, entre autres. Booba évoque, je cite, une histoire de fesses qui aurait provoqué cette suspension.
Histoire de fesses qu'il aurait mise sur son compte Instagram.
Exactement.
Et alors, évidemment,
il est allé trop loin.
N'essayez pas d'aller voir, puisque justement, le
Impossible.
Compte a été supprimé volontairement. Tout à fait autre chose, les Oscars en lutte contre le réchauffement climatique.
Une initiative saluée par Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, entre autres. Alors, pour cette édition 2020, le programme se met au vert. Dîner de gala végétarien composé à 70% de plantes. Tenue de soirée recyclée. Par exemple, Joaquin Phoenix porte la même tenue pour les différentes cérémonies, les Oscars, les Golden Globes par exemple. Les plantes étaient déjà servies
au
dîner des Golden Globes.
J'ai le même costume depuis 30 ans.
Vous êtes écolo, c'est bien. Le but de tout ça, limiter l'empreinte carbone de Los Angeles. Alors, une idée saluée par les climatologues et militants écologistes, mais certains sont plus sceptiques en soulignant l'hypocrisie des stars du cinéma. Eh bien oui, puisque pour se rendre dans différents festivals à travers le monde, les stars voyagent souvent en
en jet privé.
Évidemment. Les professionnels du cinéma pourraient également faire pression pour que les tournages soient moins polluants et qu'ils privilégient l'énergie renouvelable. Voilà, donc c'est une belle initiative, la cérémonie des Oscars qui se déroulera le 9 février prochain. Et puis une petite info en plus, vous savez la chanteuse Billie Eilish,
très très jeune,
voilà, qui a tout raflé aux Grammy Awards, ouais. Eh bien elle chantera lors de cette soirée. Billie Eilish, c'est elle. Il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait dévoiler la musique du prochain James Bond, Mourir peut attendre. J'espère ne pas vous faire de démenti le 10 février.
Moralité, dévoiler peut attendre. On reste dans la musique, chez une jeune chanteuse également. Cette fois-ci, c'est Angèle qui va faire ses premiers pas au cinéma.
Eh bien c'est oui, le cinéma veut Angèle qui est un peu retirée de la vie médiatique, de la musique, elle se lance un nouveau défi. Donc, le cinéma... Oui, Philippe, ça vous fait rien ce que je viens de dire.
Parce que chaque fois que vous parlez de quelqu'un, vous annoncez qu'il se retire. Ça me fait marrer à chaque fois.
Elle se repose.
Elle se ressource.
Oui, oui.
Je refais.
Elle est âgée,
Angèle...
vraiment.
Angèle qui se ressource actuellement. Alors, elle s'attaque donc au cinéma. Alors, elle avait déjà fait du doublage pour Toy Story 4. Mais là, elle sera dans une comédie musicale intitulée Annette de Léos Carax aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver. Le film sortira courant 2020. Tout se passe à Hollywood, l'histoire d'une fille, d'un comique et d'une chanteuse d'opéra. On a donc hâte de voir Angèle en tant que comédienne.
10 sculptures de Salvador Dali volées à Stockholm.
Un cambriolage de la galerie Couleur qui se trouve dans le quartier chic de la capitale suédoise. La porte vitrée a été donc brisée par les cambrioleurs. Les œuvres dérobées sont estimées entre 20 000 et 50 000 euros pièce. Sculpture en bronze, dont la montre molle de Salvador Dali. Il existe 350 exemplaires dans le monde, numérotées, et celle-ci provenait d'une collection suisse. C'était juste un prêt. Les voleurs se sont enfuis à bord d'un véhicule. Le propriétaire de la galerie a déclaré qu'ils n'ont pas pris les certificats donc d'authenticité des œuvres, ce qui est une bonne chose parce que ça va être très compliqué de vendre les sculptures sans ces documents. Ouais.
Je souris parce qu'évidemment qu'ils sont partis avec des véhicules. Si tu veux piquer 10 sculptures et que tu les mets sur ton
épaule... Excusez-moi d'être précise.
Mais j'aime beaucoup.
Parce qu'ils peuvent partir
c'était
en train.
J'aime cette précision. Des élus parisiens qui souhaitent mettre Michou à l'honneur dans la capitale.
On dit de moi, je suis parfois un peu fofolle. J'ai dans le cœur la nostalgie des années folles.
Le prince bleu de Montmartre, roi des nuits parisiennes qui nous a quittés en début de semaine. Les élus du groupe 100% Paris, présidé par Pierre-Yves Bournazel, proposent une statue et la dénomination d'une rue en hommage à Michou. La statue se situerait donc à Montmartre, quartier de Michou, où son cabaret transformiste se situait. La procédure pour changer le nom d'une rue prend plusieurs mois, donc les discussions sont en cours. Michou, de son vrai nom, Michel Cathy, repose dans un cercueil bleu, comme il le souhaitait. Les obsèques sont en ce moment même. Elles ont commencé aux alentours, un peu avant 10h, et il sera ensuite inhumé au cimetière Saint-Vincent de Montmartre.
Merci beaucoup pour ce journal, Hélène Manarino. Bon week-end, à lundi.
À lundi.
Et musique encore dans Culture Média avec Isia Higelin, qui défend son nouvel album Citadelle en tournée dans toute la France actuellement. Elle sera au Printemps de Bourges le 24 avril. Isia qu'on écoute avec Sous les pavés, c'est maintenant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Bruno Solo.
Bonjour Bruno Solo.
Merci à vous.
Vous êtes acteur, auteur, réalisateur, producteur, scénariste. On vous doit la série Caméra Café, on vous a vu dans La Vérité Sigement, Les Brèves de Comptoir, la série historique documentaire La Guerre des Trônes sur France 5. C'est pas du passé, c'est du présent parce que ça continue et j'en oublie. Votre actu, le présent, vous êtes à l'affiche de la dernière pièce de David Vainquinos. Ça s'appelle 10 ans après, c'est au Théâtre
Mon
de
présent,
Paris.
Présent, c'est 10 ans après, effectivement.
Ouais, ouais. au Théâtre de Paris, avec Julien Boisselier et Mélanie Page, une fois n'est pas coutume, la pièce a un pitch et il est très efficace, je le lis. Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec Bernard et Nicole? Les gens pauvres s'aiment-ils plus longtemps que les riches? Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu'un assureur? Et faut-il rompre avant ou après le dessert? Fermez les guillemets. Une fois qu'on a dit ça, que raconte la pièce? Et d'abord, qui est Pierre, votre personnage?
Eh bien, c'est un assureur qui n'a de voilà, qui n'assure que les autres, mais qui n'assure pas pour lui, et qui effectivement revient 10 ans après voir son meilleur ami qui lui a volé la femme qu'il estimait être la sienne, ouais. Même si tant est que ce don de propriété est vraiment au centre de la pièce, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de dire qu'on possède quelqu'un ou autrement que voilà, que, enfin, de manière sentimentale comme ça, et c'est une sorte de triangle l'amoureux un peu ambigu qui est bien résumé par ces petits aphorismes là, ouais, dans le dossier de presse, parce que effectivement ça aborde ces sujets un peu légers, un peu graves à la fois, de manière un peu cruelle à la façon de Fuenquinos, et très tendre. Donc c'est une pièce où le but principal est de rire, mais effectivement qui dévie et qui digresse vers quelque chose d'un peu plus transgressif, à savoir qu'est-ce que c'est que d'être heureux, qu'est-ce que c'est que de vivre à deux.
Voilà. Non, mais ça c'est pas transgressif, ça c'est la base.
C'est transgressif.
Non, il y a quelque chose de transgressif, c'est qu'il y a un deal entre les deux garçons et la femme qui est consentante.
Alors,
c'est là où c'est fou.
Mais ça je ne voulais pas le dire, mais
il faut quand même un petit peu le raconter, parce que sinon on ne peut rien raconter.
Ben oui, c'est vrai que la pièce, en fait...
Dites-en le plus possible, oui, sans déflorer, Bruno.
Ah ben, alors, ce que vous voyez n'est pas nécessairement ce que vous devez croire, et ce que vous croyez n'est pas nécessairement ce que vous avez vu.
Super.
Dans cette pièce.
Vous savez que moi, je dois tenir jusqu'à 11h.
Non, mais on peut en parler.
Avec des questions.
Oh, mais je suis persuadé que vous allez m'amener sur d'autres terrains aussi. Mais de toute façon, si l'amour, par définition, est transgressif,
ouais,
l'idée de rester avec quelqu'un, l'idée de s'accomplir à deux, l'idée qu'il faille, de toute façon, accepter la routine, la ritualiser, qu'il faille accepter qu'on se dispute très souvent et qu'il faut traverser les disputes pour mettre à l'épreuve les sentiments amoureux, à avouer que l'amour n'est pas un long fleuve tranquille, c'est tout le problème de cette pièce. Mais surtout, il parle de l'immaturité crasse de deux hommes qui sont face à une femme qui est parfaite et qu'ils sont incapables de s'en apercevoir.
Ouais.
Et elle va, de ce point de vue-là, effectivement, leur donner une leçon. Mais une leçon qui n'en est peut-être pas une.
Voilà. Parce que comme il faut dire, il passe un marché assez incroyable. Il vient dîner chez son pote qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, qu'il le réinvite. Elle avait quitté l'un pour l'autre.
Et il dit « je te la rends ».
Voilà.
Et lui, il se la rend, voilà. Et elle accepte elle accepte, mais on va comprendre pourquoi elle accepte.
Ouais.
Et lui accepte cela de manière, il se soumet à cet autoritarisme de son copain.
Ouais.
Il baisse les yeux, il dit oui, je l'aime tellement que je suis prêt à tout accepter pour la reprendre. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, de la soumission et l'amour.
Ouais.
Il faut bien le reconnaître. Peut passer par ça. Mais est-ce qu'il doit passer par ça ? C'est un autre problème auquel David essaye de répondre.
C'était ma question de la page 29. Pourquoi vous avez dit oui ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce ? Pourquoi ça vous a amusé et intéressé ?
Parce que c'est une fable. Parce que, en fait, on part sur une pièce très réaliste, presque naturaliste.
Au départ, on est dans du boulevard.
Oui, on est dans un vaudeville, à la Feydeau, à la Guitry. Et puis, petit à petit, la pièce bascule et devient presque une pièce à la Pinter. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans une fable où on n'est plus véritablement sûr de ce à quoi on assiste. Et c'est ça qui me plaît, c'est que mon personnage, notamment, passe d'une émotion à l'autre à une vitesse grand vrai. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures auxquelles on assiste. C'est-à-dire au début, il est dans une sorte de pseudo-résistance et tout d'un coup, les digues cèdent et ils s'effondrent totalement. Et c'est très drôle à jouer.
Ouais.
C'est-à-dire que, véritablement, vous vivez ça de l'intérieur, c'est un jeu un peu viscéral. Et pareil pour Julien et Mélanie, c'est très excitant.
Il y a évidemment, comme toujours au théâtre...
Il y a Fuenquinos et Briançon.
Des couples qui viennent vous voir. Il y a cette réplique qui est dite par la femme, qui n'a pas vraiment de nom. Elle dit « J'ai peur qu'on finisse comme ces couples qui n'ont plus rien à se dire et qui vont au théâtre pour tromper leur ennui. » Et je me dis, il doit faire une drôle de tête, les gens dans la salle, les couples n'ont plus rien à se dire et qui vont au théâtre pour tromper leur ennui.
Et vous savez ce qui se passe dans ces moments-là,
la
gêne, le rire l'emporte sur la gêne, parce qu'effectivement, on est toujours le con de l'autre et on ne veut pas accepter que peut-être qu'effectivement, il y a des couples qui sont dans cette situation-là. Et c'est les premiers applaudissements, c'est une des premières répliques, mais c'est les premiers applaudissements de la pièce, parce que les gens applaudissent beaucoup. Il y a quelques scènes, il y a quelques répliques qui font tellement mouche que les gens les applaudissent. Et il y a aussi chaque soir une réplique, notamment, où toute la salle, comme un seul homme ou une seule femme ou un seul humain, fait oh ! Comme ça, très choqué par ce qui est dit, notamment par le personnage Julien Boisselier, qui joue une ordure intégrale, évidemment.
Ouais, parce que David Fuenquinos écrit la délicatesse, mais parfois, c'est pas du tout dans la délicatesse.
Mais c'est dans la délicatesse qu'on trouve aussi le fumier. Hein,
ouais. Vous allez la dire la réplique ici. Donc, c'est dur. Heureusement que je fais pas de théâtre.
La réplique ?
Ouais. Mais ne la dites pas.
Non, je ne la dis pas. Non, je ne la dis pas parce qu'elle en dit beaucoup sur ce qu'il se passe après.
Vous restez avec nous alors.
Ah bah oui, oui.
Culture Média, c'est jusqu'à 11h avec notre invité Bruno Solo, émission que vous pouvez écouter et regarder sur Europe1.fr. On se retrouve dans un instant.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est Bruno Solo qui est notre invité ce matin, Philippe, pour nous parler de la pièce qu'il joue actuellement au Théâtre de Paris, pièce de David Fuenquinos qui s'appelle 10 ans après.
Et ça marche en plus.
Oui, ça part très 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 fort,
ça,
effectivement,
c'est bon.
C'est-à-dire qu'on a On a beaucoup, beaucoup de payants. La salle est pleine tous les soirs. Voilà, bon, maintenant, il faut croire que c'est peut-être... Au début, il y a sûrement un ticket, une équation qui plaît. Nicolas Briançon est un metteur en scène qui a tiré énormément de monde. Fuenkinos a un vrai public. Je veux croire que ma petite pomme, l'association de Julien Boisselier, Mélanie Page et moi, fait que maintenant, depuis quelques années, je fais quand même beaucoup de théâtre et tout. Je suis un acteur populaire. Voilà, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Le théâtre, la vérité du théâtre, c'est le bouche à oreille. Et si, effectivement, au début, il peut y avoir un effet de surprise, de curiosité, il s'épuise assez vite si la pièce ne tient pas les promesses, ne tient pas l'espoir que les spectateurs ont mis en elle. Et là, il semblerait que le bouche à oreille marche bien. Et d'ailleurs, on est très mal classé sur Billets Réduc, ce qui est plutôt un bon signe, parce que quand vous êtes mal classé sur Billets Réduc, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de réduction et qu'on n'essaye pas d'attirer les gens en baissant les prix. Pour l'instant, c'est tarif plein pot. Mais c'est le théâtre, la salle régionale du Théâtre de Paris, et c'est quand même relativement bon marché par rapport à d'autres théâtres. Le théâtre.
Tiens, dites-le combien ça coûte si vous connaissez le prix des places. Moi, je vais donner les horaires pendant que vous réfléchissez.
Donnez les prix des places. Vous.
Je les ai pas notés. J'ai noté que c'était du mardi au samedi à 21h et qu'il y avait deux matinées, le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h.
Voilà. Je peux vous dire que c'est à partir de 33 euros.
Voilà, d'accord. C'est ça. C'est entre 24 et 33 euros, c'est ça.
Alors, ce qui est vraiment marrant, je l'ai raconté, vous jouez Pierre qui revient. Il était avec une jeune femme, je peux pas tout dévoiler. Il l'est réinvité au bout de 10 ans parce qu'elle a quitté l'un pour l'autre. Yves l'aime plus. Il dit « je l'aime plus, mais c'est plus que ça, je la supporte plus, je peux plus la blairer. »
Ah, je te pire... reconnais bien là, tout dans la mesure.
Voilà, et le pire, c'est qu'il vous engueule comme si c'était de votre faute.
Oui, il me dit « j'ai décidé de la quitter devant toi. » Je dis « mais enfin, t'es malade, c'est votre problème, je veux pas être mêlé à vos histoires. » Il me dit « c'est un petit peu la tienne aussi. » J'ai dit « la mienne, la mienne, mais enfin, elle est formidable celle-là. Bah, c'est un petit peu de ta responsabilité si
c'est
nous
génial.
Nous sommes rencontrés. » J'ai dit « mais ma responsabilité. » Et puis après, il m'en veut. Il me dit « tu ne peux pas toujours mettre la faute sur les autres. Il faut que tu prennes tes responsabilités, Pierre. » Ouais. Voilà, donc du coup,
c'est
effectivement, c'est totalement sur
le cocu qui se fait engueuler. Alors, il y a cette réplique que j'ai citée dans le pitch qui est merveilleux à propos du remboursement d'un prêt immobilier. Le temps de vie, écrit David Fuenkinos, que c'est lui l'auteur, le temps de vie d'un couple est souvent calqué sur la durée d'un crédit. La preuve, les pauvres s'aiment plus longtemps que les riches.
C'est un constat extrêmement.
Ouais. Est-ce que vous partagez ce constat?
Non, je ne le partage pas, je ne crois pas que ça soit vrai. Ouais. Mais effectivement, non, mais c'est-à-dire qu'il s'appuie sur une réalité sociale qui est assez tragique, à savoir qu'on sait qu'il y a des couples qui ne divorcent pas parce qu'ils savent qui se retrouveront dans une situation de précarité s'ils quittent leur appartement, etc. et qu'ils se forcent à rester ensemble. Mais ce n'est pas l'amour qui les anime, c'est la nécessité. Et effectivement, il s'appuie là-dessus, c'est un auteur, il a le droit d'être transgressif, d'être sardonique, sarcastique, et voilà, il s'appuie là-dessus. Les riches, effectivement, peuvent plus facilement divorcer si on peut imaginer qu'effectivement, ils peuvent refaire leur vie indépendamment l'un de l'autre. Donc, il s'appuie sur une réalité sociale pour en faire une réplique de théâtre, et c'est le principe même de ne pas faire de la comédie avec des vertus. Quand même.
Je me souviens plus qui, au moment des Gilets jaunes, avait dit à la télévision, et ça avait fait scandale, et avec raison, avait expliqué à une dame qu'on ne devait pas divorcer si on n'avait pas les moyens.
Oui, et c'était épouvantable, mais voilà, elle le disait affreux. De manière froide et cynique, en constatant effectivement. Voilà, et elle le disait, c'était scandaleux de le dire. Quand c'est dans la bouche d'un auteur, il a tous les droits à partir du moment où effectivement c'est teinté d'humour.
Ah bah tiens, la bouche de l'auteur, c'est David Fuenkinos. Oui. Et alors, il s'est donné, enfin comment dire, il a donné à un des personnages, Yves, le métier d'écrivain, ce qu'il est lui-même. Et alors, on a droit à une petite séance d'autocritique ou plutôt de mise en garde de Fuenkinos. Il dit, au fond, il fait dire à la fille, c'est très chiant de vivre avec un écrivain. Et plus loin, il dit, les écrivains ne sont pas faits pour être en couple, c'est comme ça. Et je me suis dit, tiens, David Fuenkinos est en train d'envoyer des messages subliminaux à tel ou tel. Il est en train de régler ses trucs.
Il m'écoute,
je le connais, voilà. Mais
c'est
s'il avait été là, j'aurais demandé.
C'est
un homme très amoureux qui pense qu'il n'est pas fait pour vivre en couple.
Vous savez, c'est ça qui est merveilleux. Les auteurs sont totalement libres.
Ouais.
Buñuel, il va dire une phrase qui va peut-être choquer certains auditeurs, mais je vais quand même la dire parce que je la trouve, c'est un manifeste provocateur de la liberté de l'auteur. Buñuel, un jour, on lui a dit, c'est quoi être un auteur ? Il avait dit à Jean-Claude Carrière, un auteur, c'est quelqu'un qui, chaque matin, doit violer sa mère, tuer son père et trahir sa patrie. Ce que je veux dire par là, non, je vais aller au bout parce que
je veux finir là-dessus, c'est très bien. On va avoir la pause pour réfléchir à toute cette phrase.
Non, mais c'est extrêmement choquant, mais en même temps, il dit voilà, après la morale, la responsabilité de chacun l'emporte sur le fait qu'on ne peut pas tout faire. Mais ne nous interdisons rien lorsque nous écrivons. Et Buñuel l'a prouvé dans ses films, et les grands auteurs prouvent ça aussi. Voilà.
On ne s'interdit rien ici et surtout pas avec Bruno Solo.
Oui, qui est notre invité avec lui dans un instant. On découvrira nos indispensables du jour. On parlera notamment de la chanteuse Ayo avec Angèle Châtelier sur Europe 1.
9h. 9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. On va parler de Netflix avec Margot Barallon dans un instant, de la chanteuse Ayo avec Angèle Châtelier, toujours en présence de notre invité Bruno Solo qui joue actuellement la pièce 10 ans après de David Fuenquinos au Théâtre de Paris.
Autre actu, il y a le docu-fiction La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, c'est raconté par vous. Troisième saison,
oui.
Ça marche tellement bien que donc quatrième saison,
et qui c'est un 6x52 qui passe pendant les périodes des fêtes sur France 5. Et effectivement, moi, c'est une de mes passions, vraiment une de mes marottes, l'histoire. Et je l'ai dit une fois dans une émission, et là-dessus, France 5 m'a contacté, m'a dit chiche de présenter une émission d'histoire. Ouais. Et voilà, et ça dure depuis 3 ans, et donc bientôt 4 ans. L'année prochaine, on a commencé à la guerre de 100 ans, et là, on est déjà à Louis XIV.
Vous étiez à Richelieu, là, non XIV. Si je me souviens
c'était
bien.
C'était Henri IV, ouais. Henri IV, et ensuite Richelieu et Louis XIII. Évidemment.
Et après, ça va se finir quand?
Ça se finira, je pense, ça se finira.
Non, mais dans 8 ans ou 10 ans, vous n'avez pas fait René Coty.
La construction de l'Europe, oui, je pense qu'on arrêtera à l'aube du 20e siècle. Voilà. J'ai tenté que ça dure jusque-là.
Alors, je vais expliquer. Quelle différence avec une émission comme Au cœur de l'histoire, par exemple, présentée par Stéphane Bern? C'est qu'il y a vous qui racontez, ouais, vous êtes le narrateur, et il y a des fictions en habit. Avec
non,
de la...
il y a des corrélations évidemment, ouais, dans les deux émissions. Sauf que nous, les scènes de fiction sont vraiment des, c'est vraiment joué. C'est pas juste des illustrations. Il y a des vrais comédiens qui jouent qui Henri IV, qui Marie Médicis, qui Marie Stuart, Élisabeth Ier, le cardinal Richelieu. Donc il y a des vrais comédiens qui incarnent les personnages et qui nous redisent ce qui a été dit d'après les témoignages qu'on a écrits. Donc chaque phrase qui est prononcée par un comédien est une phrase qui a été prononcée par tel souverain ou telle reine. Voilà. Donc c'est un peu la différence. Et moi, je me balade dans les lieux. Je suis une sorte de... vous savez, c'est cette vieille émission, là, je parle aux boomers, hein, bien entendu, qui s'appelait La Caméra Explore le Temps.
Ouais.
Je me balade sur les lieux.
Ah, dis donc, oui, c'était il y a longtemps. Ouais.
Oui, il y a bien longtemps, mais enfin, il n'y a que nous deux qui pouvons en témoigner.
Même moi, je ne l'ai jamais vu.
Oui, alors là, je t'emmerde. je vous emmerde parce que je vous respecte trop pour être nettoyé, mais je vous emmerde quand même. Et là, en l'occurrence, je me balade dans les lieux historiques, effectivement. Et je passe dans des endroits, ouais, où le public n'a pas accès. Et ça, c'est un des privilèges, ouais, formidables de ce métier.
Vous aimez toujours la musique?
Toujours.
Bruno Solo, un des meilleurs batteurs que je connaisse. Bon. Quelque chose. On a joué de la musique ensemble. Et je vais le dire, c'est quelque chose entre John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, et le batteur du Muppet Show. On va parler musique avec vous, Angèle, mais ça va être beaucoup plus calme. De quoi parle-t-on, oui, aujourd'hui, Angèle? C'est Ayo,
la chanteuse,
qui sort un nouvel album.
C'est magnifique.
Exactement. Un album qui est un peu différent, surtout de ce tube qui l'a propulsé sur le devant de la scène. C'était en 2006.
Down on my knees, I'm begging you.
Alors, vous dites souvent, Philippe, à juste titre, que j'ai un peu une Madeleine de Proust, celle, ouais, de vous faire découvrir des artistes, souvent des femmes qui parlent en musique de leur chagrin d'amour.
Qui se font larguer.
Voilà.
La spécialité d'Angèle, c'est d'avoir des chanteuses jeunes qui racontent qu'elles se font larguer.
Alors, c'est ça. Donc, c'est vrai. Ouais. Mais Royal, le 6e album d'Ayo, c'est bien plus que ça. Il est d'une beauté pure, absolument pas superficielle ni forcément recherchée. C'est une beauté simple. Alors non pas que je veuille vous miner le moral dès le matin, mais Ayo a accouché de cet album après une période de dépression, parce que oui, ça... pardon, non,
mais
écoutez.
Non mais on voudrait faire exprès, on n'y arriverait pas, franchement.
Alors la dépression, ça existe, et le temps peut être long avant qu'on s'en rende compte quand on, ouais, est victime. C'est un peu ce qui lui est arrivé à Ayo. Elle était habituée à être plutôt le clown de service, à faire des blagues, mais cette dépression lui est tombée dessus plusieurs mois avant l'enregistrement de ce nouvel album.
Je ne savais pas que c'était une dépression, parce que je ne connaissais pas trop les dépressions avant, et j'ai jamais parlé de ça. Et donc, on pense pas qu'on est triste. On pense que c'est nous-mêmes dans la tête et tout. Quand on réalise, c'est plus profond. Parfois, on n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie de faire. On n'a plus envie de rien, quoi. Et donc, je crois que j'ai cherché peut-être vraiment de rester chez moi, tranquille. Et
vous parlez justement de la dépression, c'est aussi difficile d'en parler, difficile de mettre des mots dessus. Est-ce que vous, il y a eu un début de déclic pour vous sentir mieux? Aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce que ce disque a permis de vous sentir mieux?
J'ai dit toujours, la musique, c'est thérapeutique et tout, mais ça m'a jamais arrivé comme ça. Je crois qu'il y avait une raison pourquoi j'avais les dépressions comme ça. Et si je me sentais mal comme ça et si j'avais tous ces sentiments que je ne pourrais pas expliquer, c'était peut-être pour faire ça, pour chanter comme ça. Si je vends une disque, je m'en fiche. Parce que ce sentiment que j'ai senti, c'est plus que 10 Grammy ou je sais pas quoi.
Did you ever believe the lies that you told? That you earn the fool's gold that you gave me?
Et c'est pour ça que cet album d'Ayo est si particulier. Quand on écoute son titre I'm in love, par exemple, c'est censé être un sentiment joyeux, l'amour.
Sauf chez vous.
Sauf chez moi. Et pourtant, musicalement, cette chanson est très mélancolique. Quand elle réécoute tous ses titres, Ayo, elle se souvient de ce qu'elle a pu ressentir en les enregistrant et on l'imagine bien quand on les entend, comme ici avec la chanson Fix Me Up.
Can you pull back together? What's ripped apart? In love me, fix me up. Can you say my name? Say it loud. In love me, love me.
Fix me up, qui veut dire répare-moi, remets-moi sur pied. Elle va mieux aujourd'hui, Ayo ?
Oui, complètement. Ouais. D'abord parce qu'elle a la foi, ce qui ne veut pas dire qu'elle appartient à une religion particulière, mais elle croit en quelque chose. Et pour elle, sa dépression avait un sens, c'était de faire ce disque.
Just like I can. Tonight and today. Just like I can. Tell the ocean. Stop a river from running into the sea. I can never make you love me.
L'inspirante Ayo sera en concert partout en France à partir du mois de mars.
Ayo qui semble inspirer Bruno Solo.
Non, mais ce que je trouve merveilleux dans la position d'artiste, c'est que effectivement, traverser une dépression, c'est terrible pour qui que ce soit. La chance qu'on a lorsqu'on est artiste, c'est de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir l'exprimer. Et c'est sans aucun doute une chance que les artistes ont par rapport à d'autres qui doivent traverser les choses de manière plus violente, plus anonyme, sans nécessairement pouvoir l'exorciser, sans que ça sache, si ce n'est dans l'entourage familial. Et là, faire de cette douleur quelque chose comme ça, c'est une chance merveilleuse, même si on a traversé ces moments-là, c'est une chance extraordinaire. Moi, quand j'ai perdu mon papa, j'étais sur scène, et le fait de pouvoir jouer un autre chaque soir m'aidait à traverser ce moment. Je ne dis pas que quand le rideau se baissait, je ne m'effondrais pas, mais savoir que je pouvais être aidé par le fait d'être un autre, de pouvoir exprimer ma douleur, eh ben, c'est merveilleux. Et là, le faire avec un tel talent, l'album, le peu que j'entends, là, je vais me précipiter et l'acheter, parce que moi, j'achète les albums.
Alors, vous n'avez même pas besoin de sortir du studio, parce qu'on va entendre Ayo maintenant, Angèle.
On va écouter Ayo. Voici son titre Beautiful, issu de son nouvel album Royal qui sort aujourd'hui.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Bruno Solo qui est notre invité ce matin dans Culture Média. On va revenir, Philippe, à son actualité dans un instant. Mais avant, comme promis, on va parler de Netflix avec Margot Barallon.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Et ce matin, vous allez nous parler de la plateforme Netflix. Cette fois, pas de série, mais des films qui vont y être diffusés. Et plus précisément, des films d'animation japonais. Racontez-nous ça.
Oui, parce que Netflix a signé un partenariat exceptionnel avec Ghibli. Alors Ghibli, c'est vraiment le grand studio d'animation japonais. 21 films depuis sa création en 1985. On va tous les retrouver sur Netflix par vague. Il y en a 7 qui sortent demain, samedi 1er février, puis les 7 autres le 1er mars et les 7 derniers le 1er avril.
Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pour qui ne connaît pas Ghibli d'abord ?
Alors Ghibli, c'est très connu en France pour les œuvres de son fondateur Hayao Miyazaki. Et donc dès demain sur Netflix, il y aura son premier gros carton. Voilà, c'est Mon voisin Totoro, sorti en 1988 au Japon. En France, c'était en 1999. Moi, je me souviens, c'est un des premiers films que je suis allée voir au cinéma.
Vous avez bien raison d'en parler alors.
Alors, Totoro, c'est cette créature qui ressemble à un ours ou à un énorme chat qui est devenu le logo du studio Ghibli. Alors, des créatures bizarres, hein, y en a beaucoup chez Miyazaki, notamment dans son autre immense succès, Le voyage de Chihiro. Ah. Voilà, Le Voyage de Chihiro, c'est tout simplement le plus grand succès de l'animation japonaise de tous les temps. Il a rapporté 274 millions de dollars dans le monde, un Oscar en 2003 et même l'Ours d'or du meilleur film à la Berlinale.
Voilà, celui-ci je connais, et pour ceux, et ceux que tout le monde connaît, puis j'imagine qu'il y a aussi des films plus confidentiels évidemment.
Oui, il y a les premiers Miyazaki comme Nausicaa de la Vallée du Vent, Le Château dans le Ciel, mais il y a aussi les films d'Isao Takahata. Alors lui, c'est l'autre grand réalisateur du studio Ghibli. Il est moins connu à l'international que Miyazaki et c'est dommage parce que ses films sont magnifiques. Moi, je vous recommande notamment le sublime Conte de la princesse Kaguya qui sortira le 1er mars sur Netflix.
Mais on est là, on est des adultes, mais c'est une programmation pour enfants ou pas, Margot ?
Alors, c'est un peu l'image hein, qui colle aux films d'animation. C'est vrai que si vous prenez Totoro ou Ponyo sur la falaise, un autre Miyazaki, c'est plutôt pour enfants. Mais il y a aussi des thèmes très adultes dans ces films. Si vous prenez Princesse Mononoke, Miyazaki, toujours, sorti en 2000 en France. Alors déjà, c'est un dessin animé assez violent. Et puis surtout, ça aborde frontalement des sujets très sérieux comme la coexistence entre l'homme et la nature.
Vous n'en avez pas assez de semer partout la terreur et la haine ? Quand nous aurons rasé les forêts et chassé les meutes de loups, la montagne sera un havre de paix et d'abondance. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine.
Voilà, donc l'histoire, hein, c'est des hommes qui déforestent à tout va et qui perturbent l'harmonie avec la nature. Plus récemment, Le Vent se lève, toujours à Hayao Miyazaki, ça parlait de la guerre. Donc bien sûr, vous pouvez mettre vos enfants devant Netflix, mais moi je vous conseille quand même de rester sur votre canapé pour en profiter.
Des enfants et du film. Et Margot, vous disiez tout à l'heure que ce partenariat entre Ghibli et Netflix était exceptionnel. À quel titre ?
Bah parce que jusqu'ici, Ghibli était complètement allergique au streaming. Ils avaient juré qu'ils ne mettraient jamais leurs films sur Internet. Ils préféraient les garder pour le cinéma. S'ils ont changé d'avis, c'est un peu sous la pression des fans, mais c'est aussi évidemment une question de business, d'image, de force de frappe. Netflix, jusqu'à récemment, c'était connu pour ses séries plutôt bonnes et des films vraiment pas terribles. Mais ça, c'est en train de changer. Pour les Oscars, par exemple, les prochains qui auront lieu dans la nuit du 9 au 10 février, les films Netflix ont décroché 24 nominations. C'est plus que tous les autres studios. Et ça, c'est le genre de chiffre qui peut quand même convaincre un studio comme Ghibli que le streaming a de l'avenir.
Merci beaucoup Margot Barallon. Ça vous inspire Bruno Solo ?
Ah ouais, j'aime beaucoup Miyazaki. Ouais. Vraiment, vraiment. De toute façon, j'aime le cinéma japonais. Moi, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa et Miyazaki. En fait, c'est un héritier, même si c'est de l'animation. Il y a quelque chose dans le cinéma japonais qui est de l'ordre de la délicatesse et d'une violence sourde comme ça qui me fascine absolument. Et les films de Miyazaki, Princesse Mononoke, j'ai adoré ce film. Et même mon voisin Totoro que j'ai vu et qu'on peut regarder à plusieurs strates de lecture et tout. Et mes enfants, jeunes, étaient totalement dingues de Miyazaki.
Vous avez Netflix ? Vous êtes fan, grand consommateur de séries ?
Non, en fait, j'aime. À chaque fois qu'on me parle d'une série, j'ai envie de la voir. Je regarde le premier épisode et puis je vois qu'il y a 14 saisons derrière et que chaque saison comporte 24 épisodes. Je me dis, je ne vais jamais m'en sortir. Et donc, j'en regarde des séries courtes comme Tchernobyl il n'y a pas longtemps. Et puis, j'en ai quand même vu. J'en vois à l'occasion. Mais je préfère quand même regarder des films. Mais la dernière que j'aime beaucoup, c'est Ray Donovan. Là, pour le coup, j'ai vu les 7 saisons. Et la toute dernière saison qui passe en ce moment est particulièrement bouleversante, très poignante, concentrée uniquement sur les personnages. Peu d'action, mais on est dans la psychologie des personnages, psychologie extraordinairement torturée des personnages.
Racontez, ça raconte quoi ?
C'est l'histoire d'une fratrie, c'est Liv Schreiber qui a le rôle principal, et c'est l'histoire d'une fratrie. C'est un homme qui règle les problèmes insolubles à Hollywood, maintenant à New York, parce que c'est passé d'une saison à l'autre de Los Angeles à New York. Il règle des problèmes insolubles, et alors que lui-même est torturé par une enfance extrêmement compliquée d'un père joué génialement par le père d'Angelina Jolie.
Billy Bob Thornton.
Non. Bon, ça va me revenir, mais est absolument extraordinaire ce que propose ce comédien, celui qui jouait dans Macadam Cowboy avec Dustin Hoffman, John Voight. Voilà, John Voight. Et en fait, c'est un père qui les a abandonnés à leur naissance, qui est un voyou, et eux-mêmes ont tous les enfants ont été violés par un curé dans leur ambiance, et donc du coup, ils règlent les comptes à la religion catholique irlandaise, etc. Enfin, c'est très sombre, et en même temps. Et ça, c'est le talent des grands scénaristes. Ça peut être à des moments tellement féroces que ça en devient très drôle.
Bon, si on a envie de la voir, ça passe sur quelle plateforme ?
Alors ça, c'est sur MyCanal, je crois. Mais je sais pas. Moi, je regarde les choses et je ne sais pas nécessairement quel est le support. Je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le produit.
C'est
en tant
sur
que
MyCanal.
Je crois que c'est sur MyCanal.
Sinon, vous allez le voir dans le salon de Bruno Solo, qui reste avec nous.
Ça, il n'en est pas question. Je ne passe pas solo pour rien.
Bon, la dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant. Restez avec nous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Dernière partie de Culture Média, avec nous Margot Barallon, toujours, hein, qui est restée, et Bruno Solo, notre invité, qui joue actuellement au Théâtre de Paris pour la pièce de David Fuenquinos, 10 ans après. Une grosse actualité hein, pour Bruno Solo.
J'espère qu'il ne veut pas tout nous dire, il nous dit des choses en coulisses,
c'est
il dit
ça.
Mais on va l'annoncer ce soir. Donc ce soir, Bruno Solo va faire une annonce, mais ça ne sera pas chez nous, merci de cette confiance, ce sera chez moi, Bruno.
Je fais l'annonce à ma famille.
Dans votre salon, voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle
et
Solo.
S'il y a des gens, voilà.
Blague à part, prochain projet, vous tournez en ce moment ?
Oui, je tourne la nouvelle série de TF1, 8 fois 52 minutes, qui s'appelle Grand Hôtel, qui est l'adaptation d'une série espagnole, très adaptée, puisqu'elle se passait au 19e siècle en Espagne, et là, elle se passe de nos jours, avec entre autres Carole Bouquet, Mathias Van Cash, Hippolyte Girardot, Ma Pomme, et on est très nombreux. Et c'est Yann Samuel qui a réalisé les 4 premiers épisodes. Il y a un nouveau réalisateur, Yann Samuel, celui qui avait fait Jeux d'enfants, avec ce très joli film avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Et il y a un nouveau réalisateur qui va commencer là bientôt, que je ne connais pas encore, mais paraît-il qui est formidable. Et je suis très heureux parce que ça se passe à Paris, donc je tourne dans la journée, ouais. Et puis un petit peu en province, donc le dimanche soir après les représentations, je prends un avion, je tourne le lundi à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et puis je reviens le mardi dans l'après-midi pour jouer le soir. C'est une vie un petit peu active, ça n'a pas duré éternellement, surtout à mon grand âge, et donc j'ai besoin un peu de me reposer quand même. Mais voilà, pour l'instant, cette suractivité me sied bien. Et mais j'aime bien aussi quand ça s'arrête. J'adore l'oisiveté aussi.
Ouais, hein. On est content que vous preniez soin de votre bilan carbone. Grand Hôtel, il y a
j'y
quoi
en train,
ça rapporte quoi?
Non,
ça,
c'est
ça,
pas vrai, j'y vais en avion.
En quoi ça change de petit déjeuner compris avec Pierre Mondy?
Écoutez, ça change déjà que j'ai pas vu petit déjeuner compris avec Pierre Mondy. Pierre Mondy pour lequel j'avais la plus grande admiration.
Alors tout le monde, on le prenait pour un vulgaire comédien de Vaudeville et tout le monde disait c'était un génie.
Déjà, on ne dit pas vulgaire avec Vaudeville parce que le Vaudeville est un genre noble. Ouais. Je vous rappelle que Courteline, Fiedo et Labichon et Guitry sont des grands représentants du vaudeville, donc ça n'est pas vulgaire. C'est un art consommé, magnifique. Et en plus, Pierre Mondy était un immense comédien qui a joué Napoléon, qui a joué Austerlitz de Abel Gance. C'est un immense comédien et un très grand metteur en scène, le maître de Jean Poiret. Il fallait y en avoir pour trouver un maître à Jean Poiret.
Moi, je le prenais pour le gars qu'on voyait parfois dans le théâtre ce soir.
Oui,
et tous les gens, toute la profession disait ce type-là est absolument un génie.
Et en
génie.
Plus, il était hyper gentil.
Ouais.
Sourd comme un pot, mais gentil. Quand on lui disait que t'es un génie, il disait comment ? Et voilà, c'était très drôle. J'adorais ce mec-là, moi.
Redites-le, j'ai pas entendu. Vous êtes un des rares comédiens qui reconnaît quand il a fait quelque chose qui marche pas. Bruno Solo, j'en reviens pas. Le 27 décembre, vous avez dit à TV Mag, j'étais le parrain du film La vérité si je mens les origines qui n'a pas fonctionné. Et après l'incroyable succès de Caméra Café, on a tourné 600 épisodes de Caméra Café, une nouvelle génération qui a été un four total. Ouais. J'admire votre franchise, mais normalement ça se dit pas en public
mais
ces choses-là.
Mais si, ça se dit parce que ce n'est pas une condamnation. Je trouve que ça a été assez injuste. La manière dont a été accueilli La vérité si je mens 3, 4, les débuts
le préquel, quoi.
Parce que le film était sympa avec les comédiens ils avaient une sacrée charge sur les épaules, on leur demandait de jouer, d'être eux-mêmes, ils ont 20 ans, ils commencent quasiment tous dans le métier, on leur demande de jouer, de se mettre dans les habits de personnages qui ont déjà été incarnés, c'est pas facile, donc le film n'a pas rencontré le succès, un peu comme Caméra Café effectivement, Nouvelle Génération, je crois que le public est parfois un peu conservateur, il s'est dit moi je préférais avant, je préférais avec les autres, t'entends le public, il faut aussi savoir le secouer, il aime ça en plus, mais il aurait fallu qu'ils viennent dans les salles, il aurait fallu qu'ils regardent Caméra Café 2, ils l'ont pas fait, tant pis, mais pour autant je ne condamne pas ces programmes, je les aime, mais ils ont pas marché, ça c'est l'objectivité.
Déjà 1,5 million d'entrées, un mot Bruno de la polémique qui agite le milieu du cinéma, vous allez comprendre, les 12 nominations du film de Roman Polanski au César, TV Mag vous avez demandé, irez-vous voir J'accuse le film de Polanski, votre réponse, j'irai le voir car il faut séparer l'œuvre de l'homme, est-ce que vous persistez?
Bah oui, il faut de toute façon pas de fait, il faut de plus en plus séparer l'œuvre de l'homme, quand l'œuvre n'implique pas ou ne rend pas toxique l'homme. C'est-à-dire Gabriel Matzneff, il n'est pas question de séparer l'œuvre de l'homme. Déjà, à titre personnel, ça n'engage que moi, mais je n'aime pas ce qu'il écrit. Et en plus, moi, dans les années 70, je vois encore mon père bondir sur son... en 75, quand il est invité à Apostrophe, bondir sur le canapé en disant « Mais quand est-ce qu'on va lire les romans de cet homme ?» et l'embastiller. Parce que, effectivement, il décrivait des viols d'enfants. Mais en revanche, pour certains, je suis désolé, mais dans l'œuvre de Polanski, il n'y a pas l'implication de l'homme qu'il semble être d'après les accusations alors voilà qu'on porte sur lui. Là, effectivement, moi, je peux tout à fait voir un film de Polanski et me détacher de l'œuvre. Mais il faut, de toute façon, ça serait moi, un de mes philosophes préférés, Alain, et on a découvert il y a quelque temps qu'il avait eu des écrits très antisémite et très engagé dans l'antisémitisme. Pour autant, c'est un homme qui a écrit « Mépriser le peuple, et bientôt il est méprisable, estimez-le, il s'élève, et c'est une ode à la liberté de penser de chacun qui est magnifique. » Et pourtant, l'homme qui l'a écrit est douteux. Donc oui, de temps en temps, je crois qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre.
Merci beaucoup Bruno Solo pour ces rappels. Moi, je rappelle la pièce « 10 ans après » de David Franquino, c'est au Théâtre de Paris du mardi au samedi à 21h et deux matinées le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h. Nous, on a fini aujourd'hui pour Culture Média. On revient lundi après le week-end à 9h. Nous serons avec Anne Parillo, Thierry Sorel pour la série de TF1 H24, série qui se passe dans un hôpital, d'où le H. Et Max Boublil pour la partie culture. Il va être content de savoir qu'il fait de la culture. Max Boublil, qu'on salue. Salut Marco Barallon. Salut Bruno. Évidemment qu'il est brillant, sinon il ne serait pas invité. Merci Céline Dacosta.
Merci à vous Philippe Bandel.